Bonjour, c'est le Britannique Lewis Hamilton qui a remporté tout à l'heure à Shanghai le Grand Prix de Chine de Formule 1 devant Sébastien Vettel et Mark Webber. Le Suisse Sébastien Buemi est loin derrière au 14e rang. Les États-Unis cherchent à résoudre la crise libyenne. Le gouvernement américain veut une terre d'accueil pour le colonel Kadhafi qui pourrait éventuellement échapper à la justice internationale. On en parle dans ce journal avec François Mambry, avocat, président de Trial. L'opérateur chinois-japonais TEPCO qui exploite la centrale nucléaire de Fukushima tente une nouvelle fois aujourd'hui de rassurer la population. Mais de quoi cette catastrophe nucléaire est-elle le symbole? Vous entendrez tout à l'heure le point de vue d'un philosophe dans haute définition. Jacques Greenwald est l'invité de Manuela Salvi. Il fait beau, il fait chaud, jusqu'à 20 degrés cet après-midi. Et le soleil n'est pas prêt de disparaître ces prochains jours. La météo complète, c'est en fin de journal.
Infotrafic RSR.
Dans le canton de Vaud, la circulation est toujours perturbée dans les deux sens sur la route principale Aigle-Château-Dé entre la Lécherette et l'Étiva en raison d'un déversement d'huile sur la chaussée. D'ici quelques heures, en début de soirée, on connaîtra la nouvelle composition du conseil administratif de la ville de Genève. Le taux de participation pour le renouvellement des exécutifs municipaux est faible, 34% hier après-midi contre près de 40% il y a 4 ans. Et malgré une campagne bien agitée à droite de l'échiquier politique en ville de Genève, les résultats ne devraient guère réserver de surprises, Sylvie Belzer.
Oui, effectivement, si la campagne a été mouvementée à droite avec le résultat inédit que l'on connaît, à savoir une candidate libérale qui figure aussi sur la liste de l'UDC, la future composition politique de l'exécutif en ville de Genève est pratiquement connue d'avance. 4 magistrats de la gauche élargie assurés de placer tous ces candidats et un de droite. Là où il y a encore un maigre suspense, c'est sur la personne, précisément à cause de la stratégie de la droite qui fragilise le candidat naturel de l'entente, le radical sortant Pierre Maudet. S'il n'arrivait pas au quorum des 33% de voix nécessaires, il faudrait procéder à un deuxième tour, mais compte tenu de sa popularité, de son bilan unanimement salué et des critiques que suscite la stratégie libérale même au sein de l'entente, le candidat radical devrait, sauf surprise majeure, être reconduit ce soir.
Les premiers résultats sont donc attendus pour la ville de Genève en toute fin d'après-midi et nous vous tiendrons informés dès les premiers chiffres avec une émission spéciale de forum ce soir dès 18h à Genève. En Formule 1, le Grand Prix de Chine a été remporté ce matin par Lewis Hamilton. Le Britannique met ainsi fin à l'invincibilité de Sébastien Vettel. Vettel partait pourtant favori de cette course, les précisions de Mike Perez.
Sébastien Vettel avait dominé les séances d'essais libres, il avait déclassé tous ses adversaires en qualification. Rien ne semblait pouvoir empêcher le champion du monde en titre de signer un troisième succès consécutif cette saison. Seulement voilà, le sport automobile n'est pas une science exacte. Vettel manque quelque peu son départ et il se retrouve troisième derrière les deux McLaren de Button et de Hamilton. Et puis surtout, sa monoplace ne survole pas les débats. Le tempo n'est pas aussi rapide, la domination pas aussi seigneuriale, Vettel semble à la peine. Pourtant, il est encore en tête à 10 tours de l'arrivée, mais c'est sans compter sur un Lewis Hamilton des tout grands jours, à l'attaque en permanence. Hamilton double Vettel et remporte bien plus qu'une victoire. Le championnat est relancé, les Red Bull ne sont pas invincibles, la lutte est encore longue et promet de belles empoignades. Un mot enfin sur Sébastien Buemi, 9e sur la grille. Le Vaudois espérait marquer des points, mais il a fallu vite déchanter. Un mauvais départ, une mauvaise stratégie. Buemi termine loin à une décevante 14e place.
Mike Perez, notre envoyé spécial de la RTS en Chine. Partons du côté de la Tunisie où un bateau hôpital affrété par Médecins Sans Frontières est arrivé hier dans le port de Zarzis. Un bateau en provenance de la ville libyenne de Misrata. 64 patients gravement atteints, en majorité par balles, ont été transférés dans différents établissements hospitaliers du sud tunisien. Selon Médecins Sans Frontières, 10 personnes sont dans un état critique. Le docteur André, médecin à MSF, a participé à cette mission. Écoutez son témoignage.
Ce qu'on a fait, c'est une visite de Misrata par un médecin et un logisticien. Ils ont visité 3 structures médicales. Ils ont vu qu'il y a pas mal d'équipements. Ils se débrouillent très bien, le personnel médical. Il y a beaucoup de médecins. Il manque des infirmières. À ce moment-là, ils ont plus ou moins assez d'équipements et de matériaux. Mais bien sûr, ils sont complètement dépendants de l'aide extérieure. Et troisième chose, on a réussi visiter le camp des réfugiés qui est juste à côté du port. Les chiffres variaient de 5 à 10 000 personnes. Maintenant, c'est vraiment quelque chose incontrôlable. Il vit sur la route, il se cache sous le plastic sheeting, les couvertures et rien d'autre. Ils ont un peu de l'eau, mais très mauvaise nourriture, une épidémie de diarrhée qui a commencé.
Vous, au niveau du bateau, de l'organisation de la sécurité à Misrata, vous avez pu accoster, embarquer les blessés très rapidement, mais en toute sécurité, ou il y avait une pression sécuritaire aussi?
Oui, bien sûr, quand on a eu les précautions sécuritaires, on attendait chaque moment le obus qui tombe. Mais quand même, on a procédé très lentement au début. Mais après, à la fin, c'était quand même plus fluide. C'était calme, mais plein de blessés.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Zarzise, Nicolas Vultier. Et les demandes de la Tunisie et de l'Égypte envers la Suisse pour récupérer l'argent de leurs anciens dirigeants. Ces demandes ont peu de chances d'aboutir. Déclaration du porte-parole de l'Office fédéral de la justice ce matin à la NZZ am Sonntag. Les informations contenues dans les demandes des deux pays sont insuffisantes pour accorder l'entraide judiciaire. La Confédération a néanmoins décidé d'envoyer des experts dans ces deux pays afin de soutenir leur démarche. Et la Libye est visiblement une source de préoccupation pour les États-Unis. Le gouvernement de Barack Obama cherche un pays qui pourrait accueillir Muammar Kadhafi. Une information fournie par le New York Times. Les États-Unis qui veulent trouver un pays qui n'a pas signé ou ratifié le traité de Rome, parce que sinon, ce pays devrait livrer le colonel Kadhafi s'il venait à être inculpé par la Cour pénale internationale de La Haye. Nous avons joint tout à l'heure François Membré, il est avocat, président de Trial, une association qui traque l'impunité. Nous lui avons demandé si de telles démarches ne conduisaient pas à une justice internationale qui diffère d'un cas à l'autre. François Membré.
Alors il faudrait éviter évidemment cela. Il y a une exigence de justice qui est absolument évidente dans le cas de la Libye. Encore aujourd'hui, des crimes sont commis. On parle d'utilisation d'armes sous munitions contre la population libyenne. L'exigence de justice, elle est réelle. Elle est d'autant plus forte en l'espèce. Il serait impensable qu'on sacrifie cette exigence au profit de calculs politiques. Ça ne pourrait être qu'une solution diplomatique à court terme, encore une fois, parce que je pense qu'un jour, il serait malgré tout mis en jugement.
Mais d'un point de vue de légitimité, est-ce que la Cour pénale internationale de La Haye ne va pas souffrir de cette situation?
Oui, certes, mais la Cour pénale internationale va continuer ses enquêtes, ses investigations, afin de pouvoir un jour juger le colonel Kadhafi. Elle ne sera absolument pas, puisqu'elle a une légitimité qui vient du Conseil de sécurité, ne sera pas affectée par une telle décision.
Donc si je vous entends bien, vous partez de l'idée que ça n'est qu'une question de temps, on diffère le jugement du colonel Kadhafi, mais il sera bel et bien jugé un jour.
Oui, ce sera une solution boiteuse diplomatique à court terme. Si vous vous souvenez de Charles Taylor, il avait aussi trouvé refuge quelque temps au Nigeria. Finalement, il a quand même été arrêté, il est quand même jugé aujourd'hui par la Cour pénale pour le Sierra Leone.
TEPCO, l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima, qui a été endommagé par le séisme et le tsunami du 11 mars dernier. TEPCO donc estime aujourd'hui qu'il faudra près de 3 mois pour réduire la radioactivité, qu'il faudra entre 6 et 9 mois pour refroidir les réacteurs. Écoutez les explications de TEPCO et l'analyse de notre correspondant à Tokyo, George Baumgartner.
Nos opérations sur le site vont se dérouler en deux temps. D'abord avec le refroidissement des réacteurs de la centrale et des bassins de stockage du combustible usé. Ça prendra 3 mois. Ensuite, avec la mise à l'arrêt définitif des réacteurs d'ici 6 à 9 mois, déclare Tsunehisa Katsumata, le président du conseil d'administration de TEPCO. Cet arrêt froid des réacteurs permettra de réduire les fuites radioactives à un niveau très bas. Ça facilitera l'intervention directe des techniciens et des ouvriers dans les salles des réacteurs. 28 ouvriers ont déjà reçu des doses de radiation très élevées mettant en danger leur santé, a admis TEPCO à l'agence atomique de Vienne. Une information peu reprise par les médias japonais établis. TEPCO va tout faire pour empêcher toute autre explosion d'hydrogène aux réacteurs 1, 2 et 3. en injectant de l'azote. TEPCO va encore s'efforcer de ne pas relâcher d'eau hautement radioactive et la décontaminer à partir de juin. Ces deux derniers jours, à la suite d'une réplique de 5,9 sur l'échelle de Richter, les niveaux d'iode radioactive sont montés jusqu'à 6500 fois leur niveau légal dans l'eau de mer autour de la centrale. Georges Angartner, Radio Suisse Romande, Tokyo.
Et le Japon et les États-Unis profitent de la présence à Tokyo de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton pour annoncer le lancement d'un partenariat entre le public et le privé pour reconstruire les régions sinistrées au Japon. La Suisse et les États-Unis peinent à accorder leur violon. On parle d'échange d'informations bancaires. Washington veut obtenir les noms des clients fraudeurs dans les banques suisses, alors que Berne propose plutôt de prélever un impôt anticipé qui serait reversé aux États-Unis. Alors Evelyne Widmer-Schlumpf était en visite à Washington à l'occasion de la réunion de printemps du FMI et de la Banque mondiale. La conseillère fédérale est rentrée en Suisse ce matin sans avoir obtenu d'avancées notables sur ce dossier. C'est ce qu'elle a laissé entendre hier, Eric Guevara-Frey.
La ministre suisse des Finances voulait profiter de son séjour à Washington pour rencontrer son homologue américain Tim Geithner. Faute d'avoir droit à un rendez-vous formel, elle voulait le croiser au détour d'une réunion ou dans un couloir. A-t-elle réussi ? Voici ce qu'elle a répondu en allemand juste avant de reprendre son avion pour la Suisse. Evelyne Widmer-Schlumpf explique qu'elle a fait plusieurs rencontres mais ne veut pas dire avec qui, car parler d'une rencontre sans annoncer de résultat n'a pas grand intérêt selon elle. On ne sait donc pas si elle a vu Tim Geithner, mais dans tous les cas, on sait qu'il n'y a pas eu d'avancée majeure sur le dossier fiscal entre les deux pays. Les négociations se poursuivent en secret et elle devrait rester à l'abri des regards aussi longtemps qu'il n'y aura pas de rapprochement significatif des points de vue. La veille, Evelyne Widmer-Schlumpf nous disait que ce n'était pas perdu.
On connaît la manière de discuter des États-Unis et on a la nôtre et je pense qu'on peut trouver une solution même dans ce dossier.
Le dossier fiscal s'est par ailleurs enrichi d'un nouveau volet épineux, celui du FATCA. Derrière cet acronyme se cache une loi américaine qui entrera en vigueur en 2013. Elle exigera des banques étrangères l'échange d'informations avec le fisc américain. Sinon, Washington prélèvera 30% de pénalités sur leurs résultats réalisés aux États-Unis. La Suisse consulte en ce moment d'autres pays à qui cette loi américaine pose problème pour envisager une réponse commune. Eric Guevara-Frey, Radio Suisse Romande, Washington.
La Suisse a de bonnes cartes en main pour garder son siège au conseil d'administration du Fonds monétaire international. C'est en tout cas l'avis de la délégation helvétique. Une confiance affichée, même avec la réforme qui doit donner plus de place aux pays émergents et en développement, au FMI, avec deux arguments pour légitimer ce siège. La Suisse dispose d'une place financière solide et de la cinquième devise au monde. L'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima tente donc, on l'a entendu tout à l'heure, de rassurer. Et pour prendre un peu de hauteur par rapport à cette catastrophe au Japon, voici le point de vue d'un philosophe dans haute définition. Jacques Greenwald est l'invité de Manuela Salvi.
Haute définition, Manuela Salvi.
Pour ou contre le nucléaire, le débat fait rage. C'est comme une toile de fond de la catastrophe qui continue de déployer ses effets à Fukushima. Effets médiatiques, récupération politique. Mais de quoi la centrale nucléaire de Fukushima est-elle le symbole ? Jacques Greenwald, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, historien du développement des sciences et des techniques, professeur d'écologie globale à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. Est-ce que nous sommes les spectateurs impuissants d'une catastrophe qui continue de déployer ses effets ?
Nous sommes impuissants, bien entendu. On n'a aucune influence sur la manière dont les autorités, les ingénieurs au Japon essayent de maîtriser. Ils sont dépassés visiblement par les événements. Mais si on veut mettre en perspective ce qui se passe en ce moment à Fukushima, eh bien, il faut resituer le problème de l'énergie nucléaire dans sa dimension historique.
Et surtout dans sa dimension militaire, parce que le nucléaire, c'est d'abord Hiroshima.
Le nucléaire a été développé au niveau technologique pendant la guerre pour fabriquer des bombes atomiques. Et commençait le premier pays qui a été victime de bombardements nucléaires, ça a été le Japon, qui avait attaqué les États-Unis. Donc ils en ont pris plein la figure, il ne faut pas l'oublier quand même, parce qu'avant il y avait Pearl Harbor. Au lendemain de la guerre, pendant plusieurs années, le nucléaire a été du domaine du secret, du domaine exclusivement militaire. Il y a eu un tournant avec Eisenhower à partir de 54-55, et surtout en 55, où il y a à Genève la grande conférence des Nations Unies sur les applications pacifiques de l'énergie atomique. En quelque sorte, on a essayé de laver le péché, parce que c'était le terme de Oppenheimer au lendemain de Hiroshima. Ok, on a fait du nucléaire militaire, mais on va se racheter en promettant à l'humanité que demain, elle aura une énergie abondante et gratuite grâce à l'électricité nucléaire. Ça situe bien, d'ailleurs, cette aventure prométhéenne de la technoscience occidentale dans le contexte de la civilisation religieuse judéo-chrétienne.
Ce qui vous fait dire, Jacques Greenwald, qu'il n'y a pas d'effet Fukushima, mais que c'était d'abord un effet Hiroshima, l'entrée dans l'ère du nucléaire. Le prix Nobel de littérature en 94, Kenzaburo Oe, écrivain japonais, a réagi à cette catastrophe de Fukushima en disant, une fois encore, nous vivons sous le regard des victimes du nucléaire. Est-ce que la catastrophe d'Hiroshima et celle de Fukushima est de même nature?
Dans les effets, peut-être que Fukushima pourrait être encore plus grave que Hiroshima dans ses effets radiologiques à long terme. Mais je pense que Hiroshima est l'acte de naissance. C'est-à-dire que la grande date historique dans l'histoire de l'humanité restera malgré tout Hiroshima.
Mais faut-il faire ce lien entre Fukushima et Hiroshima, comme le Premier ministre qui a dit que le Japon vivait sa pire catastrophe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc le lien avec Hiroshima, il faut le faire.
Je pense que ce sont les Japonais eux-mêmes qui le font. Donc nous ne pouvons que suivre ce sentiment des Japonais. Personnellement, j'ai été extrêmement marqué par Hiroshima. Mes études sur l'âge nucléaire sont liées aux trois premières explosions atomiques. La première à Alamogordo, deuxième le 6 août 1945 à Hiroshima, et la bombe au plutonium pour Nagasaki le 9 août 1945. Le lien entre Hiroshima et Fukushima, il s'est imposé à mon esprit absolument immédiatement.
Un mot a été prononcé assez vite après la catastrophe de Fukushima et les fuites radioactives, l'explosion d'hydrogène. C'était apocalypse.
C'est apocalyptique. Oui, je crois que c'est apocalyptique. Mais
je n'ai pas exagéré.
Non, je ne crois pas. Parce que l'apocalyptique, ça veut aussi dire la révélation. Ce que je constate autour de moi, c'est qu'un certain nombre de gens qui étaient décidément pro-nucléaire et qui minimisaient notamment Tchernobyl, aujourd'hui ont changé d'avis. Ou sont choqués, sont perturbés par Fukushima et ce qui se passe.
Bon, pour l'instant, on est sur ce débat pour ou contre le nucléaire, sortir du nucléaire, mais comment? Mais vous êtes philosophe, Jacques Greenwald. Est-ce que vous pouvez déjà dire de quoi cette catastrophe est le symbole?
Pour les Japonais, c'est une sorte de piqûre de rappel. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'âge nucléaire.
Hiroshima.
L'après-Hiroshima. Et pour moi, c'est également cela. La date clé, ce n'est pas pour moi Fukushima, c'est Hiroshima. À partir du moment où on rentre dans l'âge nucléaire et où on persiste à continuer à s'aveugler sur les risques et à prétendre qu'on va dominer cette technologie, qu'on va dominer les forces de la nature, on est dans une situation où, d'emblée, on accepte les accidents.
Donc l'idée de notre propre destruction.
Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça va signer la fin de l'espèce humaine. On pourrait très bien imaginer que complètement contaminés par le nucléaire, nous ayons des mutations qui nous rendent complètement cinglés, encore plus qu'on l'est aujourd'hui.
Vous êtes optimiste, Jacques Greenwald.
C'est pas forcément. Je n'en sais rien. Je ne suis pas biologiste. Et je pense que l'humanité a une capacité d'adaptation qui est phénoménale.
Pourquoi Fukushima réveillerait-elle plus les consciences que Tchernobyl?
Je ne suis pas non plus sociologue, spécialiste des médias. Je pense que l'émotion suscitée par Tchernobyl a été très importante, très profonde. je pense que Fukushima, effectivement, est un événement par rapport à l'image que nous avions du Japon. Le Japon, c'était l'excellence technologique. On a même été jaloux à un moment donné de l'avance des Japonais. Et maintenant, on s'aperçoit que les Japonais eux-mêmes, finalement, peuvent se casser la figure. Ils ne sont pas plus forts que nous. On essaye au Japon de calmer les esprits, mais on sent bien que l'angoisse est en train de monter. Au fur et à mesure que les citoyens japonais s'aperçoivent que cette catastrophe dure, que les risques sont encore importants, que le gouvernement lui-même admet que cette catastrophe est à l'échelon équivalent de Tchernobyl, on ne peut plus mentir à l'opinion publique. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est une catastrophe aussi grave que Tchernobyl.
Fukushima cumule trois catastrophes, hein, catastrophe naturelle, séisme et tsunami, catastrophe technologique, parce que les centrales ont été endommagées et qu'il y a des fuites radioactives graves, et d'autant plus graves qu'elles sont aussi invisibles et que c'est difficile de lutter contre ce danger-là, mais catastrophe morale aussi.
Oui, morale, bien entendu. Catastrophe qui touche la civilisation même, la civilisation scientifico-industrielle qui a eu comme projet de maîtriser la nature. On y est plus ou moins parvenu. Catastrophe morale parce qu'on découvre qu'on ne maîtrise pas notre maîtrise de la matière. Quel que soit le régime politique, on l'a bien vu, que ce soit une démocratie, que ce soit un régime communiste avec Tchernobyl, l'humanité n'est pas à la hauteur de ce type de défi qu'elle s'est elle-même donné, de faire appel à une source d'énergie qui est trop puissante.
Mais le défi est là, Jacques Greenwald. Il faut vivre avec ce défi. Sortir du nucléaire, est-ce suffisant ?
Il faut se poser la question, pourquoi nous voulons beaucoup d'énergie ? Pourquoi nous avons besoin de la puissance ? Autrement dit, on va vous offrir beaucoup d'énergie et comme ça, vous serez plus civilisés. Non, il faut peut-être aussi partir de nos besoins et de la maîtrise non seulement de nos besoins, mais de nos désirs et s'apercevoir que nous n'avons pas tenu compte des limites de la planète et notamment des limites, pour être plus précis, de la biosphère. Or, en tant qu'êtres vivants, nous sommes enfermés dans les limites de la biosphère. Et je pense que tout le développement du nucléaire s'est fait parce que dans notre culture moderne, la biosphère était inexistante. Nous n'avions pas ni d'enseignement et encore moins de conscience de la biosphère, qui fait partie de la conscience écologique. La conscience écologique, si on veut la développer sérieusement, eh bien c'est la conscience que l'homme fait partie de la biosphère et fait partie d'une époque de la biosphère. Et que le privilège que nous avons d'être sur Terre, c'est seulement d'y être l'espace d'un soupir. L'espace d'un moment que les géologues appellent le quaternaire. Avant le quaternaire, l'homme n'existait pas sur la Terre. On peut imaginer, et il y a déjà des livres de géologues, la Terre sans l'homme.
Nous sommes là le temps d'un soupir, mais d'autres scientifiques disent qu'on est rentré dans l'ère de l'anthropocène, donc où l'homme occupe la première place et non pas la nature.
Il occupe surtout une place démesurée, qui n'est peut-être pas la première, mais il interfère l'homme par l'énormité de son activité, parce que sa technologie est importante, parce que sa démographie est importante, elle a explosé au XXe siècle, nous sommes devenus une véritable force géologique. Non seulement une force géologique, mais la plus puissante force géologique à l'heure actuelle. Et c'est la raison pour laquelle la communauté des sciences de la Terre, parce qu'il n'y a pas que les géologues, les climatologues aussi, introduit ce nouveau concept que j'ai repris personnellement, l'anthropocène.
La porte de sortie de cette impasse, est-ce forcément le retour à la bougie ?
Moi, je ne suis pas contre le retour à la bougie. Franchement, c'est provocant de dire ça, mais n'oubliez pas qu'au XVIIIe siècle, dans les dîners des rois et des princes, on s'éclairait à la bougie. Et le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. C'est pas des imbéciles. Donc, le catastrophisme éclairé ne fait pas l'équivalence électricité égale civilisation. Avant la révolution industrielle, le mot technique n'a absolument pas le même sens qu'aujourd'hui. Nous parlions auparavant des arts mécaniques, par différence aux beaux-arts. Ce qui est la dérive de l'industrialisation, c'est l'excès d'industrialisation. C'est l'idéologie de la croissance, de l'expansion, qui ne tenait pas compte des contraintes et des limites de la biosphère.
Et on en revient à cette volonté de toute puissance. Je vous propose, pour terminer cet entretien, Jacques Greenwald, de penser à la lueur de la bougie. Je vais citer encore une fois le prix Nobel japonais de littérature, Kensaburo Hoe, qui pense à son prochain livre et qui peut-être va commencer par quelques vers de l'Enfer de Dante, poète italien, XIIIe siècle. Et puis nous sortirons pour revoir les étoiles.
Ben moi, ça me fait penser, je ne sais pas quel est le poète qui a dit cela, nous sommes tous dans le caniveau, mais certains regardent les étoiles.
Mais comment les regarder, ces étoiles ?
Ben, en ville, comme il y a trop de lumière, on ne les voit plus. Je pense qu'une des premières mesures qu'il faudrait prendre, c'est diminuer l'intensité lumineuse de nos villes, notamment la nuit, totalement stupide. Là, il y a un gaspillage d'électricité incroyable. Autrement dit, une des premières choses sans doute à faire, c'est de diminuer le gaspillage de l'électricité.
Éteindre les lumières la nuit pour changer de modèle, mais est-ce que nous sortirons un jour de l'ère du feu nucléaire pour revoir d'autres étoiles ?
Je ne suis pas non plus Nostradamus, je ne vois pas clair dans l'avenir. Nous n'avons d'informations qu'en provenance du présent, voire des traces du passé dans le présent. Il y a des tendances lourdes qui font qu'on ne va pas changer de trajectoire si facilement. C'est pour ça que je développe l'idée de décroissance. La décroissance, ce n'est pas faire marche arrière. Lorsque vous êtes à toute vitesse sur l'autoroute et que votre coéquipier regarde la carte et vous dit « mais on s'est trompé de direction », vous ne pouvez pas enclencher la marche arrière. La première chose à faire si on veut bifurquer, c'est de commencer par ralentir.
Mais l'autoroute, ce n'est pas l'enfer.
Elle peut mener à l'enfer.
Jacques Greenwald, merci.
C'était Haute Définition, une émission que vous pouvez réécouter ce soir à 22h40 sur la première ou quand vous voulez sur internet hd.rsr.ch. Et on prend des nouvelles du ciel, un ciel beau bleu avec Stéphanie Couler.
Cette journée ressemble en tout point à une belle journée de printemps. Le soleil brillera jusqu'à ce soir et les températures seront douces cet après-midi. En cours de journée, il sera possible de voir des cumulus se développer sur les reliefs. Ils seront décoratifs et le temps sera sec. En plaine, les maxima atteindront jusqu'à 18 degrés sur le plateau et jusqu'à 20 degrés en Valais. L'isotherme du 0 degré se situera vers 2300 mètres. La semaine prochaine, c'est le même type de temps qui est attendu. Le soleil brillera toute la semaine. En cours de journée, des cumulus se formeront en montagne, mais le temps restera sec jusqu'à et y compris mercredi. Dès jeudi, un risque d'averse isolée sera présent l'après-midi sur les reliefs. Les températures augmenteront légèrement en début de semaine. Mardi, il pourra faire jusqu'à 23 degrés en Valais et jusqu'à 21 degrés sur le plateau.
La météo avec alloboisson.ch 0848 444 111. Infotrafic RSR.
Suite à une surcharge de trafic, des ralentissements sont toujours constatés sur l'axe Lucerne-Cassot devant le portail nord du tunnel de Saint-Gothard en direction du Tessin. Et dans le canton de Vaud, la circulation reste perturbée dans les deux sens sur la route principale Aigle-Châteaudet entre la Lècherette et l'Étiva en raison d'un déversement d'huile sur la chaussée. Un grand merci d'avoir suivi cette édition du 12-30. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à le réaliser, à la technique Mathieu Balmer et Frédéric Tsand. Si vous avez manqué une partie de ce journal, vous pouvez le réécouter sur Espace 2 dès à présent. Vous retrouverez notre prochaine édition de Forum à Genève en direct pour les élections.